tels que le glaucome, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, l'œdème maculaire ou encore la rétinopathie diabétique. La clinique d'optométrie des îles, membre OptoRéseau, à la fine pointe de la technologie.
Prenez note qu'à la fin du trait prolongé, il sera exactement midi.
Vous écoutez CFIM, la radio au cœur de votre quotidien, aux îles de la Madeleine.
Bon midi, mesdames et messieurs, ici François Delisle au micro, et voici vos informations. Le nombre d'élèves inscrits dans les écoles des îles devrait augmenter de près de 15 % d'ici 2026-2027 pour s'établir à 1300, selon les prévisions du Centre de services scolaires. Les chiffres présentés lors de la plus récente séance de ce conseil d'administration font état d'une hausse particulièrement sentie dans les écoles qui se situent aux extrémités de l'archipel. À Notre-Dame du Sacré-Cœur de Grande-Entrée, qui avait connu un creux à moins d'une quinzaine d'élèves, on anticipe 65 inscriptions dans 3 ans, une hausse de 66 % par rapport à l'effectif actuel. La directrice du Centre de services scolaires des îles, Brigitte Aucoin, se réjouit du renversement de la tendance qu'elle attribue à la démographie, mais aussi aux efforts du milieu et de l'ancien conseil des commissaires.
Cette école-là en particulier, on est venu à 14 élèves. Il y avait vraiment une volonté politique à ce moment-là du conseil des commissaires de mener l'école ouverte, ce qui a été vraiment une bonne décision. Je dirais aussi un partenariat solide avec le milieu aussi. Il y a quand même des gens qui ont travaillé, il y a une prise en charge par le milieu qui était beaucoup, qui s'assoyait avec nous puis qui regardait les solutions puis comment être attractif, comment garder nos jeunes là, qui ont fondé des familles.
Seule l'école Saint-Pierre de Lavernière devrait connaître une stagnation de sa fréquentation dans le futur, un phénomène qui s'explique par les contraintes d'espace et l'absence de classe maternelle 4 ans. L'école Osiris de Bassin devrait s'approcher du seuil des 100 élèves en 2026-2027, alors que Stella Maris à Fatima et l'école centrale à Havre-Maison passeront le cap des 200 inscriptions. Brigitte Aucoin explique que le rehaussement de l'effectif vient faciliter l'organisation dans les écoles.
L'école Osiris, on approchera une centaine d'élèves dans 3 ans. Fait que c'est nos petites écoles, là, vraiment, c'est une organisation scolaire facilitée là, par avoir plus d'élèves, puis beaucoup plus intéressant aussi pour les élèves eux-mêmes d'être dans des groupes là, plus nombreux. Puis pour nos écoles des extrémités, c'est très positif.
Finalement, notons que l'entièreté des services éducatifs complémentaires en soutien aux élèves est offerte dans l'ensemble des écoles des îles. Le personnel des magasins et des bureaux de la Société des alcools du Québec est en grève partout dans la province mercredi et jeudi. La succursale de Cap-aux-Meules est quant à elle fermée pour la durée du débrayage. En raison de la convention collective échue depuis mars 2023, les syndiqués affiliés à la CSN se sont dotés d'un mandat de jour de 15 jours de grève décomposable pour faire accélérer le rythme des négociations. La déléguée syndicale de la Gaspésie et des Îles, Edith Bélanger, indique que la précarité d'emploi est au cœur des discussions puisqu'environ 70 % des employés de la SAQ sont en temps partiel ou sur appel.
À chaque semaine, sont sur le téléphone à attendre de savoir s'ils vont travailler aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas d'heure garantie. Donc, des fois, il y a des semaines qu'ils ne vont pas travailler du tout. Donc, c'est très, très instable. Et le premier ministre a mentionné qu'en haut de 50 % une entreprise ne pouvait pas fonctionner à ce titre. On est à plus de 70 % de nos employés. Donc, il y a vraiment quelque chose de problématique là, de ce côté-là.
Sur l'archipel, 4 des 7 salariés n'ont pas un poste à temps complet, selon le coordonnateur des opérations en succursale, Jean-François Godet. À l'instar de leurs collègues ailleurs dans la province, ils sont sur les lignes de piquetage au cours des 2 journées de grève. Globalement, les membres du syndicat demandent plus de prévisibilité de la part de l'employeur, explique Edith Bélanger.
Mais on demande d'avoir tout simplement là, une gestion un peu plus humaine de nos horaires, de nos conditions de travail, un côté flexibilité aussi, un peu plus ouvert de la part de l'employeur pour avoir une conciliation de travail-famille un peu plus facile. Là. Et quand que ça prend plus de 12 ans quasiment en moyenne pour avoir une stabilité d'emploi avec un emploi régulier, donc un poste dans une succursale fixe avec une garantie d'heure, 12 ans, c'est énorme.
Le personnel désire aussi pouvoir préparer les commandes en ligne en succursale, plutôt que ce soit le centre de distribution de Montréal qui s'en occupe, ce qui permettrait de maintenir des emplois en région. Le syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ représente quelques 5000 travailleurs. Le véhicule qui a atterri dans l'anse de l'étendue Nord mercredi matin a été extirpé de l'eau en soirée hier. Selon des propos recueillis lors de l'intervention, l'automobile qui avait dérivé à partir de la rampe à bateau a d'abord été remorqué dans une partie moins profonde du havre de pêche par le capitaine sur du Le Francim, Denis Deraspe. Ensuite, le plongeur Arthur Godet est allé à l'eau à trois reprises pour sécuriser l'habitacle. Le grutier Bertrand Renault a pris la relève en tractant l'auto jusqu'à la rampe de mise à l'eau avant de soulever la voiture et de l'extraire de l'anse. Le véhicule a finalement été rapatrié en lieu sûr par le remorqueur Denis Cormier. Au moment d'écrire ces lignes, la Sûreté du Québec menait toujours une enquête pour éclaircir les circonstances de l'événement, pour le moins incongru. Le corps policier ne rapportait heureusement aucune blessure grave. Et finalement, en sport, il y aura du nouveau pour les amateurs de ballon rond aux îles cet été. Le coordonnateur de l'Association régionale de soccer des îles de la Madeleine depuis janvier, Jean-Sébastien Turbide, entend revoir la structure du volet participatif et travailler à développer le soccer compétitif. Ayant lui-même pratiqué le sport au sein de l'ARCIM toute sa jeunesse, en plus d'avoir été entraîneur pendant 3 ans, puis athlète au niveau collégial, il résume sa vision pour le développement de l'organisation.
Moi, j'ai trouvé quelques points à les travailler, puis je veux qu'on soit positif par rapport au soccer. Fait que, tu sais, je veux amener quelque chose de nouveau au soccer. Je veux pas commencer à taper sur la tête du monde qui était là avant ou non. Qu'est-ce qui a été mal fait. Mm-hmm. Je veux vraiment aller vers un objectif plus positif. Mm-hmm. Depuis que je suis là en janvier, j'ai essayé d'amener plusieurs choses. Oui. J'ai créé un nouveau logo pour essayer de revamper l'image du soccer.
Le nouveau coordonnateur prévoit aussi rehausser la formation des entraîneurs et arbitres qui gravitent autour de la Ligue. Observant un certain déclin de la participation, Jean-Sébastien Turbide désire développer le sentiment d'appartenance envers le sport, notamment en organisant un camp de jour de 2 semaines cet été. Il affirme aussi être en discussion avec la municipalité pour mettre en place une ligue de futsal en hiver, une autre manière de susciter l'engouement permettant de jouer une plus longue période dans l'année.
C'est un autre type de sport qui est beaucoup en lien avec le soccer, mais qui se déroule à l'intérieur, dans les gymnases. C'est du 5 contre 5. C'est des jeux qui sont très rapides. Mm-hmm. Beaucoup de momentum dans le futsal. Ouais. Un ballon un peu plus lourd qui rebondit pas, qui permet à faire des passes rapides. Il y a un gros essor sur le futsal au niveau du Québec, présentement.
Autre nouveauté cette année, une préinscription à coût réduit se déroulera entre le 29 avril et le 13 mai via le site Internet municipal. L'ARCIM lancera aussi une nouvelle plateforme numérique pour centraliser les communications et faciliter la gestion des équipes. Voilà qui complète votre bulletin d'information. Ce midi à l'émission L'épreuve des faits, on parle de l'organisme de bienfaisance Centraide. On parle également de pêche au maquereau et on parle finalement également de d'un autre sujet qui m'échappe pour le moment, j'en suis désolé. Je vous en reparle dans quelques minutes, mais pour tout de suite, le bulletin de météo et les manchettes sportives.
Belle italienne, une Saint-Jocelyne ou la Travailleur, quelle que soit votre pizza favorite, vous pourrez enfin en profiter car la pizza de la Pointe, située près du pont de Havre-Maison, est maintenant ouverte. Les Sœurs Arsenault vous accueilleront les mercredis, jeudis, samedi et dimanche de 16h à 20h30 et à partir de 11h30 les vendredis. À la pizza de la Pointe, on vous propose une variété de pizzas des plus savoureuses, accompagnées de frites et une belle variété de salades. Venez manger votre pizza préférée sur place ou pour emporter. La pizza de la Pointe, c'est un incontournable quand le beau temps se pointe, le bout du nez.
Mini Jacking, spécialisé en levage de bâtiments et réfection de fondations, sera aux îles de la Madeleine en septembre prochain. Si vous avez un projet, profitez de leur présence sur les îles pour avoir un bon prix. Mini Jacking visitera les îles pour études de projet et soumission en mai prochain. Pour information, appelez Alex Lavoie, 418-330-0505 ou visitez minijacking.ca.
BMR vous fait rénover à grands coûts d'économie. Obtenez le plancher laminé de 8 mm sélectionné au bas prix de 99 cents le pied carré. Disponible en deux couleurs. Faites vite, offre valide jusqu'au 1er mai. Détails en magasin et à bmr.ca. BMR, bienvenue chez vous.
Peu importe le temps qu'il fait, l'équipe de Proxime Lapierre et Lapierre vous accompagne à tout moment et vous présente les prévisions météo que voici.
À la météo, on nous prévoit aujourd'hui un temps généralement nuageux avec 30 % de probabilité d'averse de neige. Vent d'ouest de 50 km/h avec rafale à 70, maximum de plus 1. De ce soir et cette nuit, on nous prévoit un temps partiellement nuageux avec 30 % de probabilité d'averse de neige. Vent d'ouest de 40 km/h avec rafale à 60, devenant du nord-ouest à 20 avec rafale à 40 vers minuit. Minimum de moins 1, refroidissement éolien de moins 7 au cours de la nuit. Vendredi, on nous prévoit un temps généralement ensoleillé, vent du nord-ouest de 20 km/h, maximum de plus 3. Et samedi, pour débuter la fin de semaine, eh bien, on nous prévoit un temps ensoleillé, un maximum de plus 3. Dimanche également, une belle journée ensoleillée avec un maximum de plus 4. Même si c'est pas trop chaud, faudra en profiter parce que dès lundi, on nous prévoit un temps nuageux avec 30% de probabilité d'averse, un maximum de plus 4. Même chose pour mardi et mercredi pour le moment, ça s'annonce sous les nuages avec des maximums de plus 5 et de plus 6. Pour ce qui est des heures de marée, la marée était haute un peu avant 10 heures ce matin et elle sera basse autour de 4h30 cet après-midi.
Chez Proxime, Lapierre et Lapierre, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour vous simplifier la vie et pour profiter de celle-ci. Notre équipe de plus de 60 employés est présente pour vous, jour après jour, afin que votre expérience en magasin soit des plus agréables. Ils vous accueillent avec le sourire et donnent le meilleur d'eux-mêmes pour vous offrir un service de qualité à la hauteur de vos attentes. Ouvert les lundis, mardis et vendredis de 8h30 à 18h, les mercredis et jeudis de 8h30 à 21h, ainsi que les samedis et dimanches de 9h à 17h, chez Proxime Lapierre et Lapierre, on est là pour vous.
Ce segment sport vous est présenté par l'Eudesport, votre concessionnaire Honda, qui effectue l'entretien des véhicules de toutes les marques sans exception et peut faire votre changement d'huile sans rendez-vous. Vous n'avez qu'à appeler tôt le matin au 418-986-4085. Honda, la puissance des rêves.
Au sport, dans la Ligue nationale de hockey, Andy Kopitar a fait mouche dans la lucarne en échappée et les Kings de Los Angeles ont gagné 5-4 aux dépens des Oilers d'Edmonton mercredi, créant l'égalité 1-1 dans cette série du premier tour dans l'Ouest. Kopitar a récupéré la longue rondelle à près de la ligne bleue d'Edmonton, s'est dirigé vers Cam Talbot et a en tiré dans l'enclave alors que Darnell Nurse plongeait pour tenter de bloquer le tir. Los Angeles a rebondi après une défaite de 7-4 lundi lors de la dernière rencontre. Le troisième match aura lieu vendredi soir en Californie. Les Golden Knights retournent à Las Vegas avec une avance de 2-0 sur les Stars. Noah Hanifin a brisé l'égalité avec un but sans aide à la fin de la deuxième période et les Golden Knights de Vegas, champions de la Coupe Stanley, ont battu les Stars de Dallas 3-1 pour prendre l'avance 2-0 dans cette série du premier tour mercredi. Hanifin a été l'une des trois acquisitions à la date limite des échanges pour les Knights, qui ont accédé aux séries comme deuxième club additionnel dans le portrait. Jonathan Marchessault a marqué son deuxième but de la série, son 36e lors de série, un record de l'organisation. Il a participé aux 90 matchs de Vegas en série. Jack Eichel a été complice du but de Marchessault avant de marquer dans un filet désert. Logan Thompson, quant à lui, a bloqué 20 tirs à son deuxième départ en carrière en série éliminatoire. Jason Robertson l'a déjoué au premier tiers. Le troisième match aura lieu samedi soir à Vegas. Et par ailleurs, dans la Ligue professionnelle de hockey féminin, Montréal bat New York 5-2 et participera aux séries éliminatoires. Il y aura donc du hockey de séries éliminatoires à Montréal ce printemps grâce à l'équipe de la Ligue professionnelle de hockey féminin. L'équipe de Montréal a assuré sa qualification grâce à cette victoire de 5-2 devant une salle comble de 3232 spectateurs mercredi soir à l'Auditorium de Verdun. Christine O'Neill et Erin Ambrose ont dirigé l'offensive montréalaise avec 2 points chacune. Catherine Daou en première période, Dubois et Laura Stacy ont également déjoué Corinne Schroeder qui a réalisé 20 arrêts. Mélodie Daou a ajouté un dernier but dans un filet désert avec 83 secondes au cadran. En point de presse après la rencontre, Dubois a exprimé sa fébrilité à l'idée de vivre les séries éliminatoires à Montréal, ajoutant « Ça va être incroyable de vivre ça à Montréal et je suis contente que au moins, vu que les gars ne le donnent pas aux partisans, nous, on peut le faire », a-t-elle lancé, provoquant les rires généralisés dans la salle de conférence de presse. Voilà, c'était vos manchettes sportives. On passe à une courte pause avant une chanson des gars du Nord. Puis, comme premier sujet, on fait un retour sur le conseil d'administration du 6 des Îles qui avait lieu hier soir.
L'événement Formule Gagnante, c'est l'événement qui vous met au volant d'une valeur gagnante Honda. Comme la Honda Civic, qualité, fiabilité, efficiente et amusante à conduire. Un habitacle rempli de caractéristiques. C'est la voiture la plus vendue au Canada Atlantique. La Civic est en location à partir de 97 $ par semaine, avec 0 $ en acompte. Ou encore, choisissez le financement spécial à l'achat à partir de 4,99%. L'événement Formule Gagnante chez Le Desport, votre concessionnaire Honda. Si vous magasinez pour une valeur gagnante, choisissez notre gagnante, la Honda Civic.
Il paraît que pour travailler à la retraite, il faut que tu sois disponible tout le temps. J'aurais plus le temps de jardiner. Puis en plus, si tu coupes ta pension, c'est pas bien, bien avantageux. J'ai pas envie de travailler gratuitement, moi, là.
Pour connaître la vérité sur le travail à la retraite, inscrivez-vous à l'un de nos ateliers sur la fiscalité et la retraite au fadoc.ca/Gaspésie-Île-de-la-Madeleine.
Marquez bien votre calendrier chaque dernier jeudi du mois, car c'est le moment où la Légion canadienne double le gros lot de son bingo hebdomadaire afin de vous faire gagner 2 000 $. Donc ce jeudi soir, 21h, n'oubliez pas d'ouvrir votre télé au canal 2 ou 102 de Derry propulsé par Cogeco afin d'être prêt pour le bingo de la Légion diffusé en simultané à CFIM. Et lorsque vous aurez carte pleine, en plus de crier bingo, appelez le 418-969-1340. C'est donc un rendez-vous ce jeudi soir, 21h, au canal de télévision 2 et 102 pour courir la chance de gagner 2 000 $ au bingo de la Légion canadienne, aussi diffusé à CFIM.
Avis à tous! Tim ramène le biscuit sourire pour changer les choses dans votre communauté. Achetez un biscuit sourire du 29 avril au 5 mai. 100% du produit de la vente soutient plus de 600 organismes communautaires locaux. On se voit chez Tim, dans les restaurants participants au Canada pour un temps limité.
Dans nos regards de fer, ni le temps ni la place pour redouter l'enfer. Du détroit de Cabot, du banc des orphelins, jamais été chaos, nous sommes braves marins. Que sifflent en haut, la mer ou sur le pont, les voiles menacent les morts, demain nous reviendrons. Les voiles menacent les morts, demain nous reviendrons. Les craquements dans les flancs, les entrailles. Encore nous triompherons avant d'être au bercail. La mer comme des montagnes s'envoie vers l'horizon. Que John nous accompagne, encore nous trahirons. Que siffle en haut, la mer sur le pont. Les voiles menacent les morts, demain nous reviendrons. Les voiles menacent les morts, demain nous reviendrons. J'ai vu le capitaine faire son signe de la croix. Nous
20 minutes, vous êtes à l'écoute de l'émission L'épreuve des faits. Pour ce premier sujet, en fait, on revient sur le conseil d'administration du CIS qui se tenait hier soir en compagnie de Laurence Damioul. Bonjour Laurence.
Bonjour dit François.
Ah, merci. J'ai été surpris par la précision de ton bonjour. Alors donc, il y avait un CA du CIS des îles hier soir et tu y as assisté.
Évidemment François, donc un ordre du jour truffé de mise à jour de différentes politiques, de différents documents, dont plusieurs en vue de la visite d'agrément en Canada en mai. Mais ce qui a retenu mon attention lors de cette séance, en fait, c'est que finalement, le CIS veut se lancer dans la gestion immobilière. On se rappelle que le manque de logement est un enjeu criant, en fait, dans le recrutement donc de travailleurs, de travailleuses pour l'établissement de santé. C'est vraiment le principal frein. Monsieur Claude Thier, directeur des services administratifs, disait même que dans 9 cas sur 10 de candidatures qu'on reçoit, quand on dit qu'il n'y a pas de logement à la clé, ben c'est ce qui fait que la candidature se désiste. On doit se rappeler que l'an dernier, le CIS des Îles avait lancé un appel d'offres, en fait, pour demander à des promoteurs si eux étaient intéressés à construire 60 unités de logement en contrepartie d'une garantie de location sur plusieurs années.
Si je ne me trompe pas, justement, ils n'avaient pas reçu de soumission face à ce projet, justement.
Oui, exactement. C'est exactement là où je m'enlignais, François. Donc, puisque cette idée, cette proposition n'avait reçu aucune soumission, personne n'avait levé la main, mais le CIS des Îles contre-attaque, en fait, et cette fois-ci dit « on va relancer un autre appel d'offres, un appel d'offres clé en main, mais on sera propriétaire de l'immeuble, des logements, et c'est nous qui allons en assurer la location. » Donc, je vous laisse entendre les propos de Claude Cyr, directeur des services administratifs, qui nous en dit un petit peu plus.
Au lieu de demander une offre pour une location de bâtiment, on demande une construction laquelle va appartenir au CIS des Îles, puis on va louer directement à nos employés. Le pourquoi, c'est parce que on s'est aperçu avec notre première appel d'offres qu'il y avait, c'était assez évident, il n'y avait aucune offre sur la table. Puis ce qui était compliqué pour les entrepreneurs, c'est pour plusieurs, c'était la question du terrain, avoir un terrain accessible. Il y en a qui l'avaient, mais il y en a d'autres qui ne l'avaient pas. Puis aussi, construire un bâtiment, je pense qu'il faut dire aussi construire un bâtiment de 60 logements. Tu sais, un entrepreneur en construction peut l'adresser. S'il n'a jamais fait ça, ça se fait. Mais c'est pas mal moins compliqué quand ça fait 25 que tu fais. Faire un 26e, là, c'est un petit peu moins compliqué. On peut dire ça comme ça. Les incertitudes ou les choses qu'on ne maîtrise pas. Fait que, donc, vous comprenez que par là, on souhaite aussi avoir des propositions probablement de l'extérieur. Puis, en fait, on veut ouvrir le marché le plus large possible pour avoir la meilleure rapport qualité-prix.
Est-ce que c'est courant que des établissements de santé, des CIS, des CIUS soient propriétaires de logements?
Non, pas du tout. Pas du tout. Même que les gens du ministère m'ont mentionné là, qu'on s'ennuyait probablement dans un sentier qu'on allait baliser nous-mêmes, mais que fort probablement d'autres établissements suivraient notre dossier de près pour s'en inspirer. On n'est pas la seule région à avoir ce problème-là. Sauf que ici, je pense que Sophie l'a déjà dit, c'est à Gaspé, on peut étaler dans les terres et tout ça. Ici, c'est impossible. On est limité. Fait que c'est ce qu'il y a de particulier. La préoccupation d'un soumissionnaire, il construisait, mais après ça, il fallait qu'il exploite le bâtiment pendant des années. Puis ça, c'était pas nécessairement évident qu'il voulait embarquer là-dedans.
Et le CIS, lui, est prêt à s'enligner dans de la gestion de bâtiments locatifs, monsieur Cyr?
C'est certain que c'est pas notre secteur principal d'affaires, on s'entend. Par contre, si on le fait pas, je sais pas si je l'avais donné les chiffres, mais on a 200 postes actuellement dépourvus de titulaires, puis il y a un rapide survol des gens qui vont prendre leur retraite actuellement dans les 5 prochaines années. Ça va probablement être autour de 200 autres personnes. On parle de probablement 400 postes à pourvoir. Je pense que le calcul il est rapide à faire.
Construire aujourd'hui, c'est une affaire de chiffres. On le sait. Le coût par porte est le plus élevé probablement qu'on a vu dans les 10 dernières années. Est-ce qu'on a une idée d'un Du coup, que ça représenterait 60 unités de logement?
Je vais pouvoir vous dire quand on va ouvrir les propositions, mais une chose qui est certaine, c'est qu'actuellement, c'est 10 millions par année qu'on paye pour à peu près 100 personnes main-d'œuvre indépendantes. Donc, faites le calcul, là, c'est à peu près 100 000 de coûts additionnels. Ça veut dire que si je remplace une personne main-d'œuvre indépendante par un recrutement d'employés, je chauffe 100 000 piastres par personne. Fait que ça s'autofinance assez vite. C'est pas notre business de faire de la location, mais là, on le fait parce qu'on n'a pas le choix.
Pour comprendre, ce serait donc le 6 des îles qui réglerait la facture aussi de la construction ou on s'appuierait sur Québec également?
L'idée c'est de que la construction s'autofinance par les locations.
Okay.
Les 60 employés qui vont louer vont autofinancer le paiement capital intérêt puis l'exploitation de ce bâtiment-là. C'est ça qu'on souhaite.
Est-ce qu'on a un terrain visé, voire des terrains visés déjà?
Oui, effectivement.
Est-ce qu'on peut savoir dans quel secteur, par exemple?
Oui, bien nous, le 6 des îles, on est propriétaire du terrain juste derrière le maillon.
Donc, des grandes ambitions du côté du 6 des îles, François, puis on doit le souligner, c'est franchement inusité de voir un établissement de santé se lancer aussi directement dans la construction de logements, comme M. Cyr l'a dit. Il se peut que le 6 pave le chemin, en fait, à d'autres établissements de santé, puisque la crise de la main-d'œuvre, la pénurie de main-d'œuvre dans les établissements hospitaliers se fait sentir partout. On est actuellement en attente de l'approbation ministérielle. On attend une réponse, donc, au cours des prochaines semaines. Dans le but très clair de lancer l'appel d'offres d'ici le 24 juin afin que la construction débute le plus rapidement possible, voire cet automne, si jamais c'est des résultats, si ce sont les résultats qu'on atteint. Sinon également, M. Cyr a procédé à une petite mise à jour donc des finances, évidemment, du 6 des îles pour l'exercice 2023-2024. Le déficit anticipé qui avoisinait 8 millions de dollars est réduit en cette 12e période sur 13. À nouveau, écoutons Claude Cyr.
Nos prévisions annuelles au printemps dernier pour notre budget 2023-2024, c'est de l'ordre de 8 millions de déficit, 100% causé par les coûts de main-d'œuvre indépendante qu'on vient de parler, additionnels. Puis là, notre prévision après 12 périodes financières sur 13, c'est-à-dire au 24 février, là, précisément 2024, on a révisé notre prévision à la baisse à 5,2 millions. Si on n'aurait pas eu de main-d'œuvre indépendante, on serait en surplus budgétaire. Il y a des postes qui sont non comblés, qu'on n'a pas remplacés. Donc, par la force des choses, on a des économies. Ce n'est pas tout le temps le cas, parce que des fois, il y a des postes qui sont développés que si on les comble pas, on n'a pas le financement. Donc, ça ne donne rien comme impact financier. Mais il y en a qu'on a déjà eu le financement, puis il n'est juste pas comblé encore.
Et en terminant, François, le 6 des îles donc, a aussi reçu les 21 voitures électriques supplémentaires qu'il pense louer donc pour son parc automobile, donc ce qui est en location auprès du personnel. Donc les 21 voitures sont bel et bien arrivées, ce qui rendrait donc à terme la flotte de véhicules entièrement électriques du côté du 6 des îles.
Merci beaucoup, Laurence.
À tout à l'heure.
Faire de la radio, même quelques heures par semaine, est un plaisir toujours renouvelé. Et ça agrémente une pré-retraite. Ici Marjolaine Arsenault. Quel bonheur de vous retrouver les matinées du vendredi et du samedi. Déjà vendredi de 10h à midi, et ça commence bien la fin de semaine, les samedis dès 8h, deux rendez-vous auxquels je vous convie chaque semaine sur les ondes de CFIM.
$2,000! Ouais, ça serait le fun de gagner $2,000 au bingo de CFIM. Ça pourrait bien vous arriver cette semaine. Bonne chance!
Midi 29 minutes, vous êtes toujours en compagnie de François Delisle pour cette émission d'épreuve des faits. Je suis maintenant rejoint par Raphaël Lapierre. Bonjour Raphaël.
Bonjour François.
Alors Raphaël, tu viens nous parler de finalement d'œuvres caritatives.
Oui, ben en fait, c'est qu'hier, c'était la soirée reconnaissance de Centraide aux îles. Donc c'est l'occasion pour l'organisation de Centraide de d'une part souligner les contributions hein, qui, on le rappelle, là, Centraide, c'est généralement avec les entreprises hein, qu'on fonctionne. C'est soit des retenues sur la paye ou des espèces de formulaires là, que les employés vont remplir, que ce soit un don annuel ou mais donc il y avait des représentants là, de tout plein justement d'entreprises qui étaient là. Donc occasion de célébrer les donateurs, mais aussi de souligner le travail des organismes qui sont bénéficiaires des sommes de Centraide, mais aussi d'annoncer la somme amassée pour la campagne 2023, donc qui s'est déroulée finalement l'année dernière, et de lancer un peu, si on veut, la campagne de cette année en même temps. Mais donc pour 2023, là, c'est une somme record du côté de Centraide et du côté de Centraide aux îles là, plus précisément. On parle de 147 990 $ qui ont été transférés aux îles, qui seront transférés aux îles par Centraide. Donc là-dessus, il y a une part d'environ 88 000 $ qui c'est vraiment ce qui a été ramassé au niveau local. Mais il faut savoir qu'avec Centraide, il y a des dons régionaux qui peuvent être faits. Exemple, vous habitez à Montréal et vous décidez de donner à Centraide, bien, vous pouvez décider exemple de donner à Centraide Gaspésie-les-Îles. Vous pouvez aussi des fois des fondations, il y a notamment la fondation Lucie-André Chagnon, Marcel et Jean Coutu notamment qui eux, ils vont de dons généralement assez élevés pour Centraide Gaspésie-les-Îles. Puis après, il y a une formule d'apparitage là, où est-ce qu'on va distribuer ces sommes-là dans chacune des régions. Donc c'était un très beau moment hier quand même. Je vais rappeler rapidement les trois missions là du côté de Centraide, donc si on veut les secteurs qu'on vient soutenir là, avec ces fonds-là. L'enfance, la jeunesse et la famille, hein, d'une part, la sécurité et l'autonomie alimentaire et aussi la question de l'isolement des personnes aînées et des personnes handicapées. Donc, vraiment, on voit que c'est des belles missions. Et justement, ce que je vous ai ramené comme son d'hier, ce sont des explications des organismes qui reçoivent des sommes aux îles. Il y en a 7, là, Entraide communautaire des îles, le Centre d'action bénévole des îles, la Maison à Damas, le Fonds d'entraide de grande entrée, le Centre communautaire L'Éclaircie, Cuisine collective des îles et l'organisme, la Maison de la famille, en fait, l'Embellie. Mais donc, premier extrait que je vous fais entendre, c'est Carmel Lapierre d'Entraide communautaire des îles, qui résume bien sûr la mission d'Entraide, mais aussi comment Centraide vient aider Entraide communautaire des îles à aider finalement d'autres organismes qui aident la population. Écoutons Carmel Lapierre.
Entraide communautaire des îles a pour mission d'intervenir auprès des personnes en situation de vulnérabilité sur le territoire des îles de la Madeleine. Bien sûr, c'est ça, en offrant l'aide alimentaire puis l'aide aussi pour d'autres besoins primaires. Quand on parle des besoins autres que l'aide alimentaire, ça peut être l'aide pour l'événement, les médicaments, l'optométrie, aide pour frais aussi liés aux voyages médicaux. C'est tout ce que c'est qui a trait aux besoins de bord. Fait qu'Entraide communautaire, ça fait partie de sa mission. Puis, Entraide communautaire existe depuis 1995. Puis depuis, c'est sûr que nos services se sont beaucoup développés. En 2007, avec la collaboration aussi du milieu, on a mis en place un guichet unique, qui veut dire que toutes les demandes d'aide alimentaire et autres besoins primaires, les demandes se font en Entraide communautaire. En novembre 2022, plus récemment, on a mis en place un service de récupération de denrées. On récupère les denrées dans les marchés d'alimentation, dans les quatre marchés d'alimentation. Des denrées qui sont encore très bonnes à la consommation, périssables et non périssables. Puis aussi, on a eu aussi, pour mettre ça en place, parce que c'était quand même un travail de longue haleine, on a travaillé presque 3 ans, on a fait des études pour voir c'était quoi les besoins aux îles de la Madeleine. Puis on était accompagné aussi par le CERMIM pour mettre ce service-là en place. Si on a pu mettre ça en place, c'est grâce aussi à la collaboration des quatre marchés d'alimentation, mais aussi avec des organismes communautaires du milieu qui œuvrent auprès des personnes qui sont dans le besoin. On a 13 partenaires réguliers, les organismes communautaires, puis on en a 7 autres qui viennent chercher des denrées de façon ponctuelle. Puis aussi, si on a mis ce service-là en place, mais bien sûr, c'est pour pouvoir donner une plus grande quantité de denrées, puis des denrées aussi plus variées, puis aussi rejoindre aussi un plus grand nombre de personnes. On contribue aussi à réduire le gaspillage alimentaire. Et depuis novembre 2022, c'est à peu près presque en même temps qu'on a mis le service de récupération en place, on récupère aussi des plats cuisinés qui viennent de la cafétéria du CIS. Il y a des personnes pour qui c'est plus difficile, que ce soit pour la maladie ou autre. Pour l'année 2022-2023, l'entraide communautaire, c'est quand même 601 demandes d'aide, qui comprend 487 demandes d'aide alimentaire et 114 demandes d'aide pour autres besoins primaires. Puis ces demandes-là, durant l'année, ça rejoint environ 800 personnes, incluant les enfants. Certaines personnes sont aidées à tous les mois, et même deux fois par mois, car elles n'ont vraiment pas les revenus suffisants là, pour combler les besoins de base, se nourrir et autres besoins. Puis aussi, c'est sûr qu'il peut s'agir aussi d'un besoin ponctuel durant l'année. La maladie frappe, séparation ou autre situation qui est difficile, la personne peut avoir besoin aussi d'aide. On prévoit quand même une augmentation, peut-être de 3-5% d'augmentation. Personne n'est à l'abri de vivre une situation difficile. Puis avec le coût élevé du panier d'épicerie, le logement, puis autres biens et services, mais plusieurs nouvelles familles. Il y a des personnes qu'on va aider régulièrement, mais de plus en plus, on a des nouvelles personnes qui viennent nous voir. On peut dire aussi aujourd'hui, avec le coût de la vie, le coût élevé du panier d'épicerie, il y a des personnes qui travaillent, qui sont dans la classe moyenne, puis qui n'arrivent pas. Entraide communautaire aussi, depuis 2016, on a mis en place, avec des partenaires financiers du milieu, un fonds accès loisirs. Ça permet aussi aux jeunes de 0 à 17 ans de participer au moins à une activité de loisirs sportifs ou culturels. Ça, c'est à peu près une quarantaine de demandes par année. Puis c'est vraiment financé par des partenaires du milieu. Puis bien sûr, si on fait ce travail-là, puis c'est, si l'entraide communautaire réussit à répondre aux demandes d'aide, mais c'est grâce à la collaboration du milieu. Le milieu est très généreux. Notre collaboration aussi, on a plusieurs partenaires, que ce soit les organismes, on a plusieurs partenaires aussi du milieu là, qui nous aident. Puis bien sûr, les généreux donateurs de Centraide, il y a toute l'équipe de Centraide, mais c'est grâce aussi à cette générosité-là. Vous faites une grande différence dans le quotidien de toutes ces personnes, que ce soit petits et grands. Merci vraiment. Merci de nous aider à aider. Ça, c'est un thème aussi que je le reprends, un thème de Centraide. Merci de nous aider à aider les personnes qui sont dans le besoin. C'est vraiment bien tout ce que c'est que vous faites. Puis merci d'être là.
Alors, Raphaël, selon les propos de ton invité, on dirait justement que ça a là un impact, cette aide apportée par Centraide.
Oui, directement. On entendait Mme Lapierre dire quand même là, que de plus en plus, il y a des gens qui ont un emploi à temps plein et qui vont avoir besoin du soutien là, des différents organismes communautaires pour réussir à boucler, en fait, leur budget, que ce soit de manière ponctuelle là, ou, disons, de manière plus régulière. Un peu dans la même veine, autre organisme qui a reçu des sommes de Centraide, la Maison de la Famille L'Embellie. Écoutons sa directrice Juliane Jonve qui fait un peu la même chose, nous résume la mission et comment Centraide s'inscrit là, dans les travaux de la Maison de la Famille.
La Maison de la Famille L'Embellie, c'est un organisme communautaire famille à but non lucratif qui a pour mission depuis maintenant 20 ans cette année d'offrir un milieu de vie qui favorise le développement global des enfants, le soutien au rôle parental et l'enrichissement de la relation parent-enfant. Enfin, on accueille tout type de famille qui a un ou des enfants entre 0 et 5 ans principalement, mais nos services peuvent s'adresser aux familles d'enfants qui ont jusqu'à 12 ans. Fait qu'au fond, en gros, on offre des ateliers parent-enfant puis des haltes garderies. Lors de nos ateliers, nos haltes garderies, on offre toujours une collation complète et variée en avant-midi et en après-midi avec notre bon café de la brûlerie de Café des Îles. Fait que ça fait vraiment que c'est accueillant. Ça attire les gens. Puis aussi, ben, depuis quelques années, on s'est mis à offrir comme plus des repas, des buffets. des repas communautaires, là, lors de nos fêtes un peu plus spéciales, mettons la fête de Noël, la fête de fin d'année, et vraiment là, pour dans le but là, de vraiment rassembler nos familles. Puis aussi, on fait des petits ateliers de cuisine là, avec nos familles. Là. Les enfants adorent ça, les parents aussi. On donne des trucs et tout ça, fait que c'est intéressant. On se donne une petite contribution de Centraide là, depuis beaucoup d'années. Là. Je ne sais pas si c'est depuis le tout début ou en tout cas depuis, depuis un bout. Là. J'avais pas l'année. Fait qu'au fond, ça vient vraiment nous supporter financièrement pour agrémenter les ateliers qu'on offre. Puis ces ateliers-là, je veux rappeler que c'est vraiment une façon pour les familles des îles de briser leur isolement. Parce que, comme je dis, ils sont tous à différents degrés vulnérables en étant soit à la maison ou des nouvelles familles qui arrivent aux îles, qui n'ont pas vraiment nécessairement de réseau. Fait qu'ils viennent nous voir, puis ils créent des liens, ils créent vraiment leur réseau là, à partir de nos ateliers. Puis, ils viennent vivre aussi une expérience enrichissante chez nous. Puis, je dirais que depuis les 3-4 dernières années, notre participation a même doublé, même triplé. Là, si je pense que dans mes débuts, là, il y a 8-9 ans, on avait à peu près une dizaine de familles. Puis là, on est rendu, là, on a 34 enfants présentement qui viennent à nos haltes garderies. Fait que c'est ça, c'est une trentaine de familles qui bénéficient de nos services de haltes garderies, en plus de d'autres familles là, qui viennent là, pour nos ateliers parents-enfants. Fait que c'est vraiment, on sent là, qu'il y a vraiment un besoin justement là, de sortir de la maison puis de venir rencontrer d'autres familles qui vivent les mêmes choses là, pour échanger. Fait que c'est vraiment, c'est super motivant. Puis il y a aussi, comme on sait, là, avec le manque de place en garderie, bon, ben, les enfants, ils socialisent plus ou moins. Hein, fait que les parents aiment bien là, que leurs enfants aient des occasions là, d'échanger avec d'autres enfants. Puis pour les parents aussi, justement, de sortir de la maison. Puis il y a aussi beaucoup de nouveaux arrivants, là, que ce soit de l'extérieur des îles, de l'extérieur même du pays. On accueille là, vraiment là, de tout type de famille. Là, on est vraiment un milieu inclusif. Puis on accueille tout le monde. Fait que c'est toujours motivant pour l'embellie de participer à la levée de fonds. Puis vraiment, là, ce qu'on reçoit, c'est vraiment grandement apprécié. Fait que merci beaucoup à tous.
Alors voilà, on voit que Centraide fait une différence, évidemment, dans le milieu et que c'est la générosité des gens hein, qui fait que Centraide peut faire cette différence-là. Rappelons que la présidence d'honneur est assumée cette année, en 2023, là, par Élie Chevrier, propriétaire là, de Station d'Élie.
Merci beaucoup, Raphaël.
Un plaisir.
Sofilm Cinéma Parallèle modifie son horaire de projection et vous présente ce jeudi à 19h et ce dimanche à 14h à l'auditorium du Château Madelineau le drame policier québécois La Fonte des Glaces de François Péloquin avec Christine Beaulieu, Lothaire Bluteau et Marc Bellan. Billets en quantité limitée en vente à l'avance sur lepointdevente.com avec le mot-clé Sofilm. Bon cinéma!
J'ai eu un patient hier qui est venu consulter après une chute dans ses escaliers. Il avait des bonnes douleurs aux côtes, aux deux poignets, à une cheville. Ses genoux étaient maganés aussi. Il s'inquiétait pas mal pour son dos. Je l'ai examiné et finalement, le monsieur avait une commotion.
Personne n'a commotion décrit dans le front. En cas de choc, surveillez l'apparition de symptômes. Pour plus d'informations, consultez québec.ca/commotion. Un message du gouvernement du Québec.
Midi 43 minutes. Alors, on parle maintenant d'un sujet qui tombe sous le sens à l'approche de l'ouverture de la pêche au homard. Tu nous jases de maquereau, Laurence.
Oui, donc on doit se rappeler qu'en 2022, le ministère de Pêche et Océans Canada a donc mis en œuvre un moratoire sur la pêche commerciale au maquereau et au hareng de printemps aussi par la bande. Cette décision est encore maintenue pour la saison 2024. Mais ce matin, la ministre Diane Leboutier a annoncé une nouvelle pêcherie d'appât au macro pour usage personnel. Je vous propose d'écouter une partie de son annonce.
On a besoin de cette espèce fourragère. On a besoin qu'elle soit en bonne santé pour protéger nos écosystèmes et soutenir les pêches de l'avenir. Cela dit, nous comprenons que la fermeture de la pêche commerciale n'a pas été facile pour les pêcheurs qui dépendent de ce stock. Laissez-moi vous dire que j'en sais quelque chose pour l'avoir vécu dans ma propre communauté en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. On sait également que l'achat de maquereaux à des fins d'appât est devenu très coûteux et notre gouvernement est constamment à la recherche des solutions afin de rendre la vie plus abordable pour les pêcheurs. Depuis des générations, les pêcheurs ont toujours été nos yeux et nos oreilles en mer et notre gouvernement apprécie et reconnaît toute leur expertise. C'est pourquoi nous avons l'intention de les mettre à contribution. Pour toutes ces raisons, aujourd'hui, j'ai des nouvelles encourageantes à vous partager qui, je l'espère, enverront un signal optimiste à nos communautés de pêcheurs à l'effet que la reconstitution des stocks va dans la bonne direction. J'ai donc le plaisir d'annoncer l'ouverture d'une pêche d'appât à usage personnel de 470 tonnes de maquereaux de l'Atlantique et ce, dès ce printemps. Cette décision s'accompagnera du maintien de la fermeture des pêches commerciales de maquereaux de l'Atlantique au Canada, Atlantique et au Québec pour la saison 2024. Le quota pour cette pêche d'appât sera libéré en deux parts égales, ce qui permettra aux pêcheurs de différentes régions de pêcher le maquereau au cours de sa migration dans les eaux du Canada Atlantique et au Québec. Avec l'annonce d'aujourd'hui, on vise vraiment à trouver un juste équilibre entre la protection de la ressource, équiper nos pêcheurs avec les appâts dont ils ont besoin, et ce, tout en obtenant les données récentes sur le terrain qui ne pourront que mieux éclairer les prochaines décisions sur cette pêche vitale pour nos communautés côtières. Depuis le début de la fermeture de la pêche en 2022, le MPO et moi-même travaillons avec les intervenants et les partenaires autochtones en vue d'élaborer un plan de reconstitution du stock du maquereau et j'ai le plaisir de vous confirmer que ce plan sera disponible sur le site web de MPO dans les prochaines semaines. Ce plan comprendra des mesures visant à favoriser la croissance du stock, à améliorer sa surveillance, à renforcer les connaissances scientifiques et l'utilisation du savoir autochtone.
Alors, justement, excuse-moi, Laurence, Madame Leboutillier a parlé d'une répartition égale sur le quota de 470 tonnes prévues. Qu'est-ce que ça veut dire?
La question lui a été posée, François, et je n'ai pas de réponse pour les auditeurs et auditrices. En fait, il n'y a aucune autre information sur les modalités de la pêche qui ont été dévoilées aujourd'hui. La répartition égale, du moins ce qu'on sait, touche les régions du Québec et du Canada Atlantique. Est-ce que ça veut dire que le quota sera séparé 50-50? Est-ce que c'est dans une proportion de pêcheurs, par type de pêcheurs qui demandent les permis. Bref, on devra attendre pour savoir, tout comme pour quels équipements de pêche seront permis, comment sera alloué le quota, la date d'ouverture, nombre de semaines de pêche. Bref, à nouveau, comme pour le Sébaste, le ministère se suffit d'une annonce générale et garde le suspense vis-à-vis son fonctionnement. Ni Mme Leboutillier, ni les autres représentants du ministère présents lors du point de presse virtuel n'ont été en mesure de confirmer, d'ailleurs, quand les mesures de gestion seraient transmises.
Oui, je te comprends bien, Laurence, il semble qu'on ne sait pas grand-chose autour de cette annonce. Alors, qu'est-ce que l'on sait?
Que n'importe qui pourra demander un permis sans priorisation des flottilles en difficulté. Je pense notamment au regroupement des pêcheurs pélagiques de la Gaspésie, voire les pêcheurs d'appât des îles qui ont aussi subi un moratoire en 2023 sur la plie rouge et l'aliment à queue jaune. On sait que les prises devront être utilisées pour un usage personnel, ce qui veut dire drôlement donc pour boîter les cages. Les prises ne pourront pas être vendues et changer ou monnayer. Un pêcheur qui prendra du maquereau devra le garder pour lui-même seulement. Une collègue de la radio CIEU-FM a justement demandé lors de la période de questions pourquoi ne pas réserver une partie du quota pour aider les pêcheurs en difficulté. Voici ce que Mme Leboutillier avait à répondre.
Dans le secteur des pêches, on a besoin d'avoir des appâts. Puis dans les consultations qui se sont faites depuis le mois d'août, on l'a vu avec les changements climatiques à quel point le golfe actuellement le golfe est impacté, à quel point au niveau des espèces, on a des espèces en difficulté. Et nos pêcheurs ont demandé aussi de pouvoir faire partie de la solution pour aider la science. Donc, de pouvoir aussi permettre une pêche d'appât va nous permettre d'avoir de meilleures données scientifiques, puis d'avoir une pêche qui va être éco-responsable. Mais on va s'assurer, on comprendra là qu'on va s'assurer. On avait aussi là, des pêcheurs de homards qui, eux, s'approvisionnaient en appât. On a des gens, des associations, des gens là, qui pêchaient le maquereau antérieurement, qui travaillent en collaboration avec les associations de pêcheurs d'homards. Donc, c'est un travail de collaboration qui va se faire dans le milieu. Moi, c'est... puis, on a écouté les gens du milieu. On travaille avec les associations. Puis, on en est arrivé à la décision d'aujourd'hui, qui est une excellente décision pour nos milieux. Puis, comme je disais, qui va nous permettre d'avoir de meilleures données.
Donc, François, les auditeurs auront compris que la ministre n'a pas répondu à la question qui lui était posée. Madame Leboutier n'a pas non plus donné d'informations sur la tendance au rétablissement du maquereau qu'elle a elle-même nommée à plusieurs reprises dans son allocution. Puis à ce sujet, je suis tombée sur une étude publiée tout récemment par des chercheurs canadiens et américains qui ont conclu que les prédateurs du maquereau ont mangé au moins deux fois le volume de débarquement entre 2012 et 2022. Donc, l'étude révèle aussi ce que bon nombre de pêcheurs disent depuis longtemps, c'est-à-dire que les phoques n'en mangent pas rien qu'un peu. Bref, les données montrent que le taux de mortalité naturelle du poisson pèse plus lourd dans la balance que les prises des pêcheurs. Tout ça remet à l'avant-plan le défi immense de reconstituer le stock via des mesures comme un moratoire ou des quotas réduits. Donc, maintenant qu'on ouvre la pêche d'appât, est-ce qu'on mise sur les bonnes mesures? Si c'est le taux de mortalité naturelle qui a accru le déclin du stock, la question est en suspens.
Très bonne question, en effet. Évidemment, encore une fois, on voit que ça peut même faire un lien avec la chasse aux phoques, évidemment, dans le golfe. Merci beaucoup, Laurence.
Au plaisir.
Narcotique Anonyme vous avise que les réunions ont lieu tous les lundis et jeudis à 19h30 au Carrefour Unité, situé au 390 chemin de l'église Saint-Luc à Cap-Aumeul. Narcotique Anonyme propose un processus de rétablissement et un réseau d'entraide. La fraternité est ouverte à toutes les personnes ayant un problème de dépendance lié aux drogues. Un programme mondial reconnu à travers plus de 100 pays. Bienvenue à tous, les lundis et jeudis, 19h30 à Carrefour Unité.
Puisqu'à chaque fin de mois, CFIM fait des heureux parmi ses membres, ce dimanche, votre radio communautaire remet à 3 personnes, membres du Son de la mer, un bon d'achat d'une valeur de 100$ chacun échangeable aux entreprises PPE. Situées en plein cœur de Cap-Aumeul, les entreprises PPE sont les spécialistes aux îles pour vos besoins résidentiels, commerciaux ou industriels dans le domaine de la plomberie, du chauffage, de la protection d'incendie et de la ventilation. N'oubliez pas d'écouter le Son de la mer ce dimanche pour savoir si vous êtes l'une des 3 personnes privilégiées du mois. Pour gagner, une seule condition. Vous devez être membre de CFIM 92.7, la radio des îles. Bonne chance à tous nos membres. CFIM, c'est plus que de la radio.
Alors, c'est ainsi que se conclut cette édition de l'émission L'épreuve des faits. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Merci également aux journalistes Raphaël Lapierre et Laurence Damioul pour leur participation à l'émission. Merci à leurs invités Claude Cyr, Carmel Lapierre, Juliane Jonf et Diane Leboutillier. Je vous invite à demeurer à l'antenne de CFIM pour l'émission Acadie de nos cœurs qui suivra dans un instant. Et dès 14h, l'émission De long en large animée par Pierre Aucoin en compagnie de Serge Tremblay. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain.
entre ce qui se passe autour, sans se dire pour toujours, et donne-moi un coup de fil. Et je te vois en peinture, et c'est ce que je trouve le plus dur, et donne-moi un coup de fil. Je me rappelle plus des numéros, mais je sais que j'ai tiré le gros lot. Et donne-moi un coup de fil. Quand se casse la tête en mille morceaux, l'important c'est que demain il fasse beau. Et donne-moi un coup de fil. Même à des mille sur drapeau blanc, je te ferai la cour comme dans le temps. Et donne-moi un coup de fil. J'ai mieux le cahier que le clavier, tes accents sonnent comme l'été. Et donne-moi un coup de fil.
Bienvenue au dépanneur du village.
Salut, pour le concours plein gaz à CFIM, je suis venu chercher...
L'indice.
Wow!
Non, excuse-moi, mais comment ça marche le concours?
C'est simple, viens au dépanneur du village, trouve l'indice, va sur le site de CFIM et remplis le formulaire. Tu pourrais gagner 100$ d'essence à chaque vendredi.
OK, fait que tout ce que j'ai à faire, c'est aller au dépanneur du village puis trouver...
L'indice!
Oh, excuse-moi encore, c'était plus fort que moi.
Puis quand on aura un concours de chanteurs, on t'appellera.
Merci!
Un tirage à tous les vendredis, toute l'année.
Des choses dans tes yeux, je t'offre des roses silencieuses sur des lapins ou ta peau. Tu es la cause de mes maux.
Tu es o fado desse amor e a saudade sem dor. Nenhum de nós quer perder e ninguém quer ficar só.
Doucement, doucement, tu me dis, enfin, comme il te semblait, je suis comme un apprenti. Timide, j'ai les mains qui tremblent. J'ai le cœur impatient. J'te veux du lundi au dimanche. J'suis d'humeur comme un enfant. Oh, mais moi, peu importe où on ira, Bali, Paris ou Lisboa, je suis bien quand je suis avec toi.
C'est le Cartogène si je fraude. Que Dieu pardonne mes fautes. Je suis le cyclone, toi l'émeraude.
J'ai la tête parfois à l'envers. Des erreurs, oui, j'ai dû en faire.
Je suis l'élève ambitieux.
T'es trop mystérieuse. T'es ma flamme,
mon César.
Mais au amour, mi apache. T'es le premier rôté, mi village.
Sois mais un beijo. Je te veux du lundi au dimanche.
Jamais la vermeille en mi amour.
Vous écoutez CFIM, la radio des Îles de la Madeleine.